On m'a toujours dit, mes parents m'ont toujours dit, si tu fais quelque chose, tu le fais à fond, pas de regrets. Et puis bah, du coup, je me suis dit, on va réfléchir sur ce que je dois mettre en place, comment je dois le faire. Et voilà, c'est pas encore parfait et je dis pas que ça va arriver tout de suite. Mais au moins, j'aurai pas de regrets. Et puis si un jour, je dois arrêter parce que je dois arrêter pour n'importe quelle raison, j'aurai pas de regrets. Et si toutefois, bah, ça m'aide aussi à continuer, et bah, tant mieux.
Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un cadre fabuleux. Nous sommes au golf de Bouly, donc à Versailles, avec une golfeuse, Chloé Salor. Salut Chloé.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Alors effectivement, on est accueillis dans un sublime cadre, bien évidemment, parce que Chloé est maintenant devenue golfeuse professionnelle.
Exactement.
Depuis un an, ouais.
Janvier 2023, il me semble.
Oui, c'est ça, 8 janvier exactement.
8 janvier 2023, en plus
date,
on a la date.
Une date de naissance, presque.
C'est ça.
Parfait, juste après le nouvel an, on passe en voilà. Professionnel. Ouais. Parfait.
Bonne résolution.
Donc là, on est donc ici, comme Sandra a dit, à la Bouly, donc Racing Club de France, qui est donc ton club, je crois, d'affiliation.
Ouais. Exactement, c'est mon club depuis 2011.
D'accord, et donc tu t'entraînes également, je crois, au Pays Basque.
C'est ça, maintenant je vis à Bayonne, donc je m'entraîne au Pays Basque avec mon coach qui est au Pays Basque.
On peut le nommer éventuellement.
Pierre-Jean Cassagne.
Voilà. Et donc tu es un petit peu entre les deux, entre donc, la région parisienne et le Pays Basque.
C'est ça, toujours région parisienne pour le club et pour la famille.
D'accord.
Et sinon Pays Basque, la nouvelle ville de cœur on va dire.
Mais justement, parce que du coup tout ton début de parcours a été quand même en Ile-de-France.
Exactement, ici, à la Bouly et puis dans la région. Quoi.
Voilà, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce qu'il me semble quand même que tu as commencé relativement jeune. Enfin, on peut considérer jeune, il me semble 9-10 ans à peu près. Mais ce que j'ai vu quand même, c'est que tu avais fait une première tentative. Parce que, bien évidemment, tes parents, en tout cas, pratiquaient le golf. Donc, en général, on ne tombe pas non plus dans un sport pour rien. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, la première fois que tu as essayé, tu n'as pas accroché vraiment.
Non, la première fois que j'ai essayé, j'ai pas trouvé ça fun. Enfin, même tous les jeunes pourraient dire que c'est vraiment chiant.
Carrément.
Parce que le golf, c'est.
Non, mais c'est marrant d'avoir ce côté-là.
C'est pas hyper. C'est pas très dynamique, on va dire.
C'est vrai que pour un enfant de 9-10 ans, du coup, ça peut.
Ouais,
c'est peut-être pas.
C'est un peu mou. Mais en fait, il suffisait juste que les pros me disent: ah, t'as un peu de talent.
Ah.
Et puis du coup, là, je me suis lancée. Et
donc, il y avait quand même déjà un petit quelque chose qui faisait que, dans tous les cas, on pouvait y voir un avenir, en tout cas, sur.
Je faisais beaucoup de natation à haut niveau aussi. J'étais vraiment, vraiment entre les deux. Et puis, il y a un moment où les parents, ils ont dit: bon, on ne peut pas trop t'amener sur tous les tournois.
Il faut choisir entre les deux.
Il faut choisir. Donc,
parce que tu as fait les deux, entre guillemets, à haut niveau.
Je faisais les compètes de natation et tout ça. Et puis après, j'ai dit: bon, je vais choisir le golf parce que j'ai peut-être un peu plus de chance, il y a un peu moins de monde, c'est un peu moins populaire.
D'accord.
Et démocratisé à ce moment-là. Donc,
mais pas forcément plus évident, malgré tout, pour justement aller en faire une carrière pro.
C'est sûr, mais c'était pas du tout ce que j'avais prévu au début, sans mentir, hein, je m'attendais pas à passer pro. Maintenant, je pensais quand même faire des bonnes choses en amateur, et après peut-être partir aux États-Unis, ce que j'ai fait aussi par la suite.
On va en parler après.
Et puis c'est vraiment ma dernière année, même mon dernier semestre aux États-Unis, où je me suis dit: je passe pro, ça y est.
Je tente l'expérience.
Exactement.
En tout cas, pour en faire justement ton métier, ta carrière.
Exactement.
Et continuer ainsi. Et
est-ce que c'est tard de commencer à 10 ans le golf par rapport aux autres joueurs de haut niveau? Non, c'est un peu le standard.
Pas spécialement, non. Ouais, non. Je pense qu'il y a pas le golf, il n'y a pas vraiment d'âge, même. D'accord, pour arrêter, il n'y a pas vraiment d'âge. Oui. C'est à partir du moment où le physique dit bien. Voilà, exactement.
D'accord.
Donc non, je pense pas, non.
D'accord.
Mais c'est comme on pourrait dire, par exemple, parce que c'est vrai que passer professionnel, t'as à peu près, t'as 25 ans, il me semble.
Exactement.
À 25 ans,
24 du coup, quand il est passé pro.
Oui, oui, 24 ans quand t'es passé pro, en tout cas, milieu vingtaine. Et on va dire que dans beaucoup de sports, en fait, en général, on est déjà professionnel. Dans certains gros sports, on est déjà professionnel parce que les fins de carrière arrivent bien plus tôt. Mais par exemple, dans le golf, effectivement, c'est pas du tout un problème, ou c'est limite un peu la moyenne d'âge.
Ouais, y a pas, on peut passer pro plus tôt, évidemment. Moi, c'était vraiment au niveau des études, il me fallait un
bagage derrière.
Voilà, et puis même, j'allais à cette époque, je savais pas en fait, donc voilà. Et du coup, c'est vrai que oui, on peut passer pro assez tard au golf. Maintenant, il suffit d'une blessure et on peut aussi arrêter. Hein. Je connais des gens qui ont fait un an, ils sont blessés, ils sont arrêtés. Enfin, voilà, c'est un peu comme dans les autres sports, mais c'est vrai qu'on peut continuer beaucoup plus tard. Donc, c'est vrai que ça laisse plus de temps, entre guillemets, on va dire.
Oui, si pour monter justement à un cran supérieur.
Exactement.
Je voulais parler évidemment de ton parcours en jeune, donc tu as eu quand même des réussites, on va dire, au niveau départemental, régional, etc. Mm-hmm. Donc,
c'est un et national.
Un parcours assez, on va dire, linéaire au niveau en jeune, si on peut dire.
T'as ouais. gravi les échelons, on va dire. Oui.
Ouais, ça ouais. va, ça va. Non, je me vante pas, quand même.
Mais si,
apparemment,
mais
t'es rentrée en équipe de France assez jeune aussi.
Je suis rentrée en équipe de France, ouais, en 2013, avec ma ouais. première équipe de France ouais. En Espagne.
Voilà.
Coupe de Peralada, je m'en souviens très très bien.
D'accord.
Pour un 4 nations.
Ouais. Ok, et justement, t'as été donc en équipe de France pendant une dizaine d'années.
Oui, c'est ça. Bah, jusqu'à ce que je passe pro, du coup.
Voilà.
Parce que du coup, là, il faut différencier donc, le golf amateur, donc l'équipe de France est amateur.
C'est
et
ça,
donc les joueurs pro, qui, du coup, ne jouent plus en équipe de France.
Non, en équipe de France, il y a plus de, en pro, il y a plus d'équipe de France, sauf d'accord. pour la Ryder Cup. La Ryder Cup.
Oui,
c'est
non.
quoi, on va couper ça.
L'autre.
Non, non.
L'équivalent chez les filles.
Pour les JO, pardon. Voilà. Les JO, parce que même pour la Solheim Cup, la Solheim Cup, c'est Europe. Donc, oui, on joue pour l'Europe, on joue pas pour la France. Bon, même si derrière, il y a forcément.
Oui. Bien sûr.
Voilà, mais y a l'équipe de France, c'est simplement pour les JO en pro.
Donc
y a
ça veut dire
pas
que
de tournoi.
Quand on fait ce qui est assez particulier quand même. Hein.
Quand on fait ce choix du coup de passer pro, du coup on se prive d'équipe de France.
On se prive du drapeau.
C'est ça, c'est voilà. ça.
Donc c'est un choix.
Après 10 ans, je pensais que j'avais fait un peu le tour.
D'accord.
Et puis voilà. Et au bout d'un moment, il y a autre chose aussi. Bon pour l'instant c'est pas du tout prévu, mais c'est vrai que moi les JO c'est quand même un grand rêve et donc
il y a un objectif.
Les
alors.
JO c'est seulement si on est pro aussi.
Est-ce qu'on va parler maintenant des JO
alors, bah,
on peut
autant tomber directement dans ouais. le sujet parce que là les JO on sait qu'on est quand même très très proche en tout cas pour les Jeux 2024.
Ouais.
Qu'en est-il?
Non, je suis pas du tout oui. dans les listes.
Voilà, parce que c'est la question en fait qu'on s'était posé parce que effectivement c'est peut-être encore un peu récent mm-hmm. du fait que tu sois professionnel, mais quels auraient été justement les critères de sélection ou comment tu aurais pu potentiellement intégrer les Jeux Olympiques ou potentiellement les futurs Jeux Olympiques
Alors, il y a un classement mondial et il faut vraiment être dans le classement mondial. Je sais pas exactement, mais je crois que c'est 300, les 300 premières mondiales au ranking. Et dedans, il faut que ce soit les deux premières françaises. Donc, j'en suis encore assez loin.
Okay. Tu connais ton classement mondial? Enfin oui, je suppose que tu le connais, à peu
non.
près.
Pas du tout.
Apparemment, c'est d'accord. compliqué en golf. Hein.
Ouais, c'est un peu compliqué ouais. en pro. En plus, ouais. du coup, je viens de rentrer dedans. Là, ouais. je suis pas du tout focalisée sur ça, puisque je sais que bah, malheureusement, cette année, ça va pas être possible.
Mais tu iras enfin, peut-être les voir, du coup.
Si un miracle se produit, pourquoi pas.
C'est ton jamais.
Regarde le ciel.
Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Donc, voilà.
Mais par contre, tu as l'objectif pour peut-être.
2028 ou 2026. Los Angeles, oui. Mmh. Bah,
une petite parenthèse sur le golf au JO. Le golf était présent en 1900 et 1904 mm-hmm. et a disparu pendant plus
oui,
de 100 ans.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment bizarre.
Oui, mais c'est revenu il n'y a pas si longtemps.
2016.
Exactement.
Étonnant.
Ouais. Mmh. Bah, c'est vrai quand même pour un sport qui est qui a quand même une ampleur dans le monde, parce que bien évidemment pas que chez nous, même si d'ailleurs je dirais moins chez nous que dans d'autres pays.
Oui, ouais.
Bah, mais bon, les JO, on sait toujours que c'est un peu particulier dans son
sport. C'est vrai, il y a beaucoup de sports qui sont pas, puis d'autres qui viennent d'arriver. Enfin,
c'est ça.
Ça évolue, quoi.
Et pour en avoir fait quand même pas mal des sports, on voit ceux qui sont toujours restés, mm-hmm. en tout cas depuis le tout début, même depuis les tout premiers jeux.
Bah, l'athlétisme, tout ça.
C'est, exactement.
Ça a commencé comme ça, hein.
Et bah, exactement. Voilà. Mais nous avons fait effectivement l'histoire des JO.
Dans les discussions entre joueuses pro, est-ce qu'on sent que les JO, c'est important ou pas encore ou...
Non.
Ça va venir.
Franchement, non.
Je pense qu'il y a des compétitions qui sont plus importantes.
Je pense que. Alors. Pour moi, je pense que ça dépend des mentalités, on va dire.
Oui.
Moi, les JO, c'est pour moi, c'est quand on est sportif, n'importe quel sport, d'accord. les JO, c'est la base.
Okay.
C'est vraiment le Graal. Maintenant, en golf, on a aussi des majeurs. Et ces majeurs, c'est en fait vraiment
C'est le top du top.
C'est le top du top en termes de tournois. Donc, en exemple, je peux prendre Céline Boutier qui a gagné l'Evian. Ça, c'est un majeur.
Oui.
Et là, c'est vraiment, quand on gagne ça, c'est... En termes de monnaie et tout ça, c'est... bien plus gratifiant de gagner d'accord. un majeur. Maintenant, c'est toujours cool d'avoir aussi un titre olympique, quoi.
Donc pour les JO, c'est vraiment, pour les JO, c'est pour toi.
Bah, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Après, d'accord. je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui pensent pas pareil, qui préfèrent gagner un majeur. Je dirais jamais non pour gagner un majeur. Hein.
Mais évidemment, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter dans tous les cas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc très aussi français mm-hmm. sur les Jeux Olympiques ou les athlètes français, les sportifs français. Mm-hmm. Y a un petit côté représentatif aussi au niveau ouais. de la France. On mm-hmm. a envie d'aller chercher mm-hmm. les médailles en même temps. Tout le système fédéral, on l'avait déjà expliqué, ouais. il est quand même derrière justement le fait d'aller gagner des médailles. C'est comme ça qu'on l'a créé, en tout cas en France. Mm-hmm. Donc c'est un objectif et mm-hmm. je pense effectivement qu'il y a une plus-value. Et les majeurs, mais c'est assez marrant parce que dans tous les sports, les majeurs, ce qu'on vous souhaite, c'est aussi comme ça que vous pouvez gagner enfin c'est comme ça que tu peux gagner ta vie aussi, mm-hmm. parce que je suppose en plus que les prize money sont quand même
assez important,
assez intéressant en tout cas,
ouais.
en golf.
Ouais.
Contrairement à d'autres sports où très sincèrement ils sont quand même pas gâtés.
Alors du coup, belle transition. Est-ce que tu pourrais nous décrypter un petit peu comment ça marche sous ces circuits ? Il y a, le LPGA qui est le plus
très
gros.
Très compliqué, hein, le golf.
Alors, et toi, tu es dans le LET, donc le Ladies European Tour.
En fait, c'est pas du tout compliqué.
Ah bon ? Ah bah vas-y. Alors simplifie-le pour nous, s'il te plaît.
Éclaire-nous.
Le LPGA, c'est en fait c'est le circuit américain.
Oui.
Voilà, c'est la première division américaine. Ensuite, il y a l'Epson Tour, deuxième division américaine. Et après, on passe donc en Europe, le LET, oui. donc LET comme tu
l'as dit. European Tour.
Voilà. Okay. Et ça, c'est la première division européenne. D'accord. Et ensuite, il y a le LETAS, donc le LET Access Series, donc ce que moi je fais en ce moment.
D'accord.
Donc c'est la deuxième division. Et du coup, voilà. Donc en fait, il n'y a pas de meilleur. C'est vrai qu'en termes de, je dirais, de
prestige.
Voilà, de ce prestige et de joueuse, le LPGA, c'est un peu le Graal. Maintenant, le LET devient très très bien.
D'accord.
Il y a vraiment des bonnes joueuses, ça se démocratise de plus en plus, donc il y a plus en plus d'argent aussi. Voilà.
C'est pas compétitif.
C'est très compétitif.
Donc ouais. C'est aussi ce qui est intéressant.
Exactement.
Mais du coup, ma question c'est.
Après, en Asie, pardon.
Est-ce qu'il y a du coup un classement différent par circuit ou est-ce qu'il y a.
Oui, il y a un classement. Non, il y a un classement différent par circuit et c'est vraiment le classement mondial qui fait que. En fait, du coup, on regroupe tous les circuits.
Ok, donc tous les points de ces circuits-là sont pris pour après faire le ranking mondial.
C'est un peu ça, oui. Okay. C'est un peu ça. Donc en fait.
D'accord. Donc le classement mondial montre bien en tout cas l'étendue mm-hmm. sur tous les circuits.
C'est un peu ça, ouais. Moi, quand je gagne par exemple un tournoi sur mon circuit, c'est valable que pour mon circuit. Après, voilà. Donc, si par exemple je gagne un tournoi aux États-Unis, ça sera pour le circuit américain.
D'accord.
Il y a pas de. Mais... Sauf s'il y a des tournois co-sanctionnés, donc avec deux circuits qui se.
Enfin.
Ils organisent ensemble le tournoi. Okay.
D'accord.
Ok.
Bon, ça va. On comprend un peu mieux.
Voilà.
Oui.
C'est pas très compliqué, mais.
Oui, c'est quand même pas simple au niveau quand même de ce côté où effectivement chacun a son classement.
Oui. Après, c'est pour comparer, c'est un peu compliqué, mais bon.
Ouais.
Alors, tu parlais du LETAS. Moi, c'est vraiment le sujet qui m'intéresse, donc ce passage, on va dire, un peu de l'antichambre au haut niveau.
Mm-hmm.
Alors, comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer dans le LET ?
Alors, pour passer dans le LET, quand on est sur le LETAS, exactement, oui. Quand on est sur le LETAS, il faut finir. Alors, l'année dernière, c'était les 6 premières au ranking à la fin de la saison.
Oui.
Cette année, ils ont ouvert un spot de plus, donc ce sera les 7 premières.
Okay.
Et à la fin de la saison, du coup, les 7 premières obtiennent une catégorie pleine. Sur la division au-dessus.
Division 1.
Exactement.
Ouais.
Et donc là, en catégorie pleine, ça veut dire qu'on joue tous les tournois. Après, il y a des différentes catégories qui font que, en fonction de notre classement, on joue peut-être trois quarts de tournoi, la moitié de tournoi.
Ah oui.
Enfin, voilà. Ouais,
D'accord.
Ouais, exactement.
Et on peut parler un peu donc, de ta saison donc, de début 2023. J'ai vu que ça t'était bien passé au début et une blessure à la fin, apparemment, c'est ça si
Oui, c'est ça. La saison était correcte. On peut pas dire qu'elle était extraordinaire, mais elle était correcte pour une première année.
On va dire bien lancée.
Bien lancée, voilà. Mais par contre, à la fin, vers septembre, j'ai commencé à avoir une douleur à la côte. Je pensais que
c'est pas top, ça.
À la 7e côte, exactement.
Ok.
Bon, alors je ne savais pas au début, hein. Je pensais que c'était juste un petit point et que ça allait passer. Et puis j'ai continué à jouer parce que j'enchaînais beaucoup de tournois à ce moment-là. J'ai continué. Et j'avais de plus en plus mal au point que quand je suis partie au tournoi en Italie avec ma maman, je pleurais quasiment chaque coup tellement que j'avais mal.
Ah oui.
Mais comme je suis tête de mule,
apparemment oui.
J'ai pas voulu arrêter, donc j'ai continué. Et puis.
Tu t'as blessé un peu plus.
Oui, à chaque fois, mais bon, les points faisaient qu'il fallait que je continue, enfin, bon.
Puis je pense que c'est surtout quand on est dans un...
Moi, j'aime pas abandonner, abandonner, ça me... Non.
Mais, donc du coup, ça veut dire que, est-ce que moi, ma question, quand effectivement j'avais vu la blessure, je m'étais dit, mais quel type de blessure, justement, un golfeur, une golfeuse peuvent effectivement avoir
mm-hmm.
Donc effectivement... Je pense le côté avec les swings, etc.
Les côtes, franchement, c'est très rare. Moi, j'ai jamais entendu.
Ah oui
c'est vraiment.
Unique,
c'est...
Alors.
Ouais.
Moi, j'aurais pensé justement que les côtes, c'était quelque chose parce qu'il y a quand même du mouvement. Ou peut-être que nous, on joue mal, donc il y a peut-être du mouvement chez nous. Mais...
Une douleur intercostale sur un muscle. Mais enfin, moi, c'était vraiment une fissure à la côte. Hein, donc, c'est vraiment comme si j'avais eu un choc et j'étais tombée. Et j'étais à ça de la fracture de fatigue, en fait. Donc,
donc il fallait vraiment arrêter, là.
Oui, donc j'ai vraiment arrêté. Vraiment à ça.
Pendant combien de temps t'as arrêté ?
J'ai arrêté pendant... en fait, j'avais une échéance en décembre pour justement passer sur la division 1. Donc pour moi, c'était indispensable. Il fallait absolument que j'y aille. Donc j'ai arrêté pendant un mois. Et puis j'y suis allée. La douleur est revenue. Et du coup, après, j'ai passé des examens, un scanner. Et donc, on a vu ce que j'avais. Donc là, j'ai arrêté pendant à peu près un mois et demi encore.
Okay.
Et puis, j'avais déjà arrêté encore avant trois semaines, un mois. Donc au total, ça fait depuis octobre jusqu'à février, un peu avant février. Donc, j'ai arrêté pas mal.
Mais là, tout va bien.
Et là, tout va bien. Plus rien.
Donc là, c'est bon.
J'ai fait une infiltration, tout ça. Et je me suis reposée.
Et donc, j'ai vu que la nouvelle saison commençait en France, je crois, en avril. C'est vrai ?
Exactement. Avec le Terre Blanche, les 10 Open. Non. Exactement.
Donc, tu vas forcément avec les ambitions de marquer des points pour.
Voilà, forcément, oui. il faut un peu se donner. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand les choses bougent. Donc,
un peu.
Voilà, c'est dynamique. Ce qui est un peu paradoxal avec le golf. Hein.
Oui.
Mais,
oui.
Mais oui.
Mais ça bouge quand même, le golf. Hein. Faut pas...
Alors, oui, moi, j'ai quand même regardé la moyenne d'âge.
Non, faut pas faire ça.
Voilà. Non, mais des joueurs de... et on peut le voir déjà aussi sur effectivement au domaine. Mais là, déjà, on va quand même parler vite fait un petit peu quand même de chiffres au niveau du golf. Parce que malgré tout, la fédération de golf, par exemple, c'est quand même une grosse fédération. On est à peu près... Alors là, ils ont atteint effectivement un record. Et c'est très particulier d'atteindre un record de licenciés post-Covid. Mm-hmm. Quand toutes les fédérations...
Oui, mais c'est un sport
général,
qui est vraiment à la mode, le golf.
Mais oui.
Mais c'est un sport en plein air aussi.
Mais exactement.
Post-Covid.
Mais en plus, important. Ouais.
Mais c'est très important ce qu'ils ont quand même pris. Donc aujourd'hui, ils sont à peu près, je crois que c'est 443 000 licenciés, donc ce qui est quand même très bien.
Un quart de femmes.
Ce qui fait... 27% de femmes, oui. 73% d'hommes.
Tu viens, j'apprends des choses.
C'est le but du podcast.
Voilà. Une moyenne d'âge, 56 ans. Mais de joueurs, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent pour... Enfin voilà, qui
oui. Fun.
Exactement. Voilà. Plus en mode loisir. Mais c'est vrai que quand le golf, on le voit, il y a une certaine image déjà assez... assez huppée sur... mais on a eu déjà aussi sur d'autres sports où on les considère un peu plus... effectivement...
élitistes, on peut le dire.
Oui, c'est SP++, ouais. Par exemple, ouais. Parce qu'en général, on est dans des beaux écrins, on sait que ce n'est pas forcément donné, etc. Même si tout le monde peut aller clairement taper le golf.
Maintenant, c'est quand même des tarifs relativement accessibles,
oui,
pour essayer.
Franchement, oui.
C'est excessif. Après.
Accessible, pardon.
Oui, accessible. Oui.
Mais
pour essayer, pardon. Oui,
accessible,
oui, pour essayer.
Je suis d'accord.
Oui.
Pour essayer, c'est. Enfin, oui. Je veux dire, c'est. Louer un truc de golf, on en a pour 20 euros,
oui, voilà,
on va taper, quoi. Enfin, oui. C'est pas non plus. Oui, c'est sûr que tous les jours mettre 20 euros, c'est compliqué.
Mais... Non, mais n'importe qui maintenant peut mettre 20 euros pour essayer le golf.
Voilà.
C'est qu'en fait, juste pour essayer, il y a vraiment des. Y a des... Alors là, on est vraiment à la Boulie, c'est un des clubs un peu plus prestigieux de France, donc quand même, bon. Tout le monde ne vient pas, c'est privé aussi.
Oui.
Maintenant, il y a des practices à Paris, j'en connais plein, où c'est très accessible. C'est ouvert au public, il n'y a aucun problème. Y aller, demander un set de club et puis commencer.
Et
quoi.
Essayer, effectivement.
Exactement.
On ne vous dira peut-être pas quand même que vous allez avoir un bon swing dès le début, mais...
Vous allez être champion.
Ma foi, on peut avoir des surprises.
Tu parlais à l'instant du paradoxe entre ton hyperactivité et l'aspect du golf un peu calme.
Ouais. Ah oui.
Toi, qu'est-ce qui te plaît dans le golf, justement, dans ce sport ? Qu'est-ce que tu aimes ?
Moi, j'aime beaucoup la compétition, déjà. Donc, on trouve ça dans tous les sports, évidemment. Voilà, okay. Maintenant, le golf, c'est vrai que c'est quelque chose... Moi, je ne suis pas très patiente, ça me calme.
C'est un peu de thérapie, alors. Entre guillemets.
Oui, c'est vrai, c'est un peu une thérapie. Après, j'aime beaucoup la nature, donc voilà. Moi, j'ai
on
fait des études
sur le golf.
Je fais des études d'architecture, donc on parle pas de bâtiments là, mais on parle quand même de paysages. De...
Ouais. Donc, et en général, effectivement, ils sont plutôt bien travaillés en plus les domaines.
Ouais, c'est top. Donc voilà. Moi, après, le golf, c'est une passion. Ça aussi, mes parents qui ont commencé là-dedans. Voilà, ça me calme. Et puis voilà, c'est ouais.
Tu regrettes pas ton choix, en tout cas.
Non, je regrette pas du tout mon choix. C'est vrai que de temps en temps, ça me manque la natation, donc j'y vais. Hein. J'ai pris l'abonnement à Centre Aquatique de Bayonne.
Mais ce qui est pas mauvais non plus pour justement physique, enfin rester.
Ouais, après
aussi.
Ça, enfin pour vraiment que ça aide, il faut vraiment faire beaucoup. La natation. Après, ça aide. C'est vrai que c'est toujours un plus. Et la petite astuce.
Oh, on adore les astuces.
Alors, le golf étant un sport vraiment asymétrique, mm-hmm. donc du coup, de faire de la natation, ça rééquilibre un petit peu toute la chaîne, la colonne, exactement. Ça rééquilibre un peu. Je dis pas que ça va guérir ou que ça va être miraculeux, mais en tout cas, c'est pas mal pour un peu se remettre. Exactement, ouais, parce que vraiment le golf, moi quand je vais chez l'ostéo à chaque fois, c'est... Oh là là, le golf ça te détruit. Mais du coup, j'imagine. Faire un peu de natation, d'accord. Ça aide un peu. Quoi.
Petit conseil médical de Chloé.
Voilà. Non, mais en même temps, on le sait tous, ça renforce aussi pas mal. Et quand effectivement, ouais. Il y a ces mouvements du haut du corps, effectivement, en tout cas, ça peut pas être mauvais
voilà.
De pouvoir le faire.
Et de toute façon, pardon, je te coupe deux secondes, mais c'est vrai que la natation, c'est déjà un des sports, je pense, le mieux en termes pour le corps, en fait.
Clairement.
Parce que vraiment, dans l'eau, c'est le top. Ouais. Et quand on est blessé, moi, quand j'ai été blessée à la côte, c'est vraiment ce que j'ai pu faire le plus. Donc, du coup, j'ai pu retourner. Bah, en fait, oui, du coup, ça me faisait pas mal. Alors, je pouvais pas faire tous les mouvements. C'est vrai que le dos, j'avais un peu du mal parce que du coup, on tire un peu sur les côtes. Mais faire juste de la planche, des battements, ce genre de choses, c'était vraiment c'était accessible, quoi.
Ouais. Et ça fait du bien, du coup.
Et
justement, donc, comment on est sur à peu près un petit peu ce sujet, quels sont tes entraînements physiques, autre bien évidemment que là, par exemple, aller pratiquer, mais comment justement on s'entraîne ou comment, qu'est-ce qu'on fait en tout cas à côté du golf, parce qu'il y a tes entraînements de golf certes, mais ouais. À côté pour maintenir en tout cas une condition physique propre au golf.
Moi, je fais beaucoup de cardio parce que l'endurance c'est très très important dans le golf.
Et j'aurais pas dit.
Bah, quand on voit déjà les parcours comme ça, quand on porte le sac, que c'est 4 tours, c'est très fatigant. C'est pas un effort intense, on va dire, comme d'autres sports. Maintenant, c'est sur la durée, c'est très très long. Enfin, déjà, un parcours, c'est au minimum 4h30, 5h. Et ça, pendant 4 jours. Donc, ça commence à...
Okay, un peu une usure, on va dire.
Voilà, c'est ça. C'est une usure. Donc déjà, beaucoup de cardio. Après, c'est vrai que j'ai une petite passion aussi pour la musculation.
Ah ouais.
Donc, du coup, beaucoup de musculation
d'accord.
pour moi. Après, j'essaie un peu de me calmer.
Donc, tu vas en salle ? Enfin, en salle.
Ouais, muscu en salle, tout ce qui est tout, un peu tout. En plus, mon copain est vraiment dans la muscu, donc du coup, ça m'aide
ça
pas.
Permet... Enfin, ah, j'aurais dit ça permet de motiver.
Justement, mais j'ai pas besoin de motivation parce que j'aime déjà ça. D'accord. Du coup... Des fois, je suis en mode « Ah ouais, je veux faire plus encore. » Des fois, je suis « Ah, peut-être je pourrais tester celui-là. » Ouais, mais non, en fait, t'as déjà fait ta séance, donc on s'arrête. Mais ouais, sinon, à muscu, après, il y a beaucoup d'exercices de mobilité aussi. Les abdos. On utilise les abdos. Hein. Donc voilà, après, bon, on n'est pas tous super... Mais bon, en vrai, il faut un peu de muscu. Et puis, même pour le dos, les lombaires et tout ça, c'est super important en golf.
Mais c'est vrai que c'est marrant, effectivement, parce que quand on voit les golfeurs, par exemple, quand on les voit à la télé, etc., quand ils jouent, on perçoit, enfin, c'est peut-être pas forcément perceptible, justement, ce que tu viens de nous dire, que les abdos travaillent énormément, en tout cas, qu'on en a besoin, justement, peut-être pour bloquer des. Enfin, pour. Je vais peut-être dire des bêtises, mais pour le swing, pour bloquer un petit peu, voir comment. On prend aussi, donc du coup, le fer, etc. Enfin, je pense que ça joue aussi beaucoup sur ça. Mais c'est vrai qu'on ne se dit pas, il faut effectivement travailler ces parties-là, pour être bon au golf.
Bah, en fait, c'est pas. Il y a pour être bon. Mais c'est aussi pour prévenir les blessures.
Et prévenir les
parce
blessures.
Parce que du coup, c'est tellement. C'est pas un mouvement naturel que du coup, plus on est musclé, plus on est gainé ou quoi, moins on a de chances de se blesser, quoi.
D'accord.
Donc après, ça, c'est vraiment quelque chose qui, en plus, se démocratise de plus en plus dans le golf, où on voit des gens qui vont vraiment beaucoup à la salle et, pour taper plus fort et ainsi de suite. Donc voilà, il y a aussi après des polémiques sur ça. Mais c'est vrai que, ouais, là, c'est assez important, je pense, de faire un travail aussi de fond à côté des entraînements de golf.
Okay.
Tu parlais apparemment donc, de ton diplôme que tu as passé, donc, je crois, aux États-Unis, à Kent.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix-là de partir ?
Un double projet ?
Ouais, alors déjà j'avais envie d'apprendre l'anglais. Déjà, ça, c'était la base.
Parce que t'en as besoin, dans tous les cas, aussi pour les circuits.
Voilà, il y en a besoin. Ça peut être avantageux comme très désavantageux, parce que si l'arbitre nous parle de quelque chose et en fait, on ne sait pas, bah, on va peut-être faire une bêtise. Et au final, bon, on a des pénalités et tout ça. Donc, bref. Et ça peut aussi être très avantageux si on comprend très bien ce qu'il dit et que, bon, voilà, je ne fais pas le dessin. Hein.
Langue officielle et l'anglais.
Anglais. Et donc, du coup, ça, j'avais besoin. Et aller en Angleterre, non. C'était pas du tout... J'aime bien l'Angleterre, mais le temps, j'aime pas. Ça allait pas. voilà.
Ce qu'on peut comprendre malgré tout.
C'était pas le top. Et puis...
Mais il y a surtout... On a tous la vision des universités américaines aussi, où le sport est très présent. Et on sait qu'il y a une grosse ferveur sur le sport aussi.
Moi, j'adore le sport. C'est vrai que j'ai toujours adoré ça. Et du coup, je me voyais pas arrêter le golf à la fin de mon bac. Mais à la fois, je voulais quand même faire des études. En France, j'ai essayé de faire une école d'archi avec des horaires aménagés. pas quand il n'y en a que le mercredi en horaire aménagé, c'est compliqué, surtout en école d'archi. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, je vais partir aux US. Et c'est vraiment là où je vais pouvoir m'épanouir, faire les deux en même temps. C'est un rythme très soutenu, on va pas se mentir. Ouais. Maintenant, j'ai adoré, je regrette pas du tout. Je parle anglais et je kiffe ça. I like it.
Donc, effectivement, tu as passé 4 ans quand même à Kent University.
Ouais, 4 ans. Kent State University, ouais, dans l'Ohio, exactement.
Exactement. Et donc, du coup, est-ce que là-bas, tu étais dans une section sportive, golf ?
Ouais, j'étais dans la section...
Est-ce qu'en golf, on joue en NCAA aussi ?
Alors, ça dépend, NCAA, ouais. Bah, ça dépend des facs, oui, et des divisions et tout ça. Nous, on était en NCAA, hein, ouais. Donc,
t'as vraiment vécu le truc division. Très...
Ouais, on était aux nationaux, quoi, et tout ça, donc c'était...
Forcément
une belle expérience. C'est une super expérience,
ça. Ah, c'est génial. Franchement, je peux la conseiller à tout le monde, vraiment. Après, je sais pas les autres sports. En tout cas, je sais que là où je suis allée...
Globalement,
c'est
quand même le pays du sport, donc en général, les sportifs
sont
là-bas.
Ah non, mais là, j'ai vraiment senti une différence. Oui. Là, j'ai vraiment senti un choc entre la France et son système, sans le dénigrer, parce que très patriote et tout ça. Ouais. Mais maintenant, je trouve qu'il y a vraiment... je vais rejoindre beaucoup Teddy Riner et Florent Manaudou sur leur interview. Hein, désolé, mais ce qu'ils disaient, c'est que vraiment, en France, on n'a pas du tout cette culture du sport. Et je trouve ça tellement dommage. Moi, quand j'étais à la fin... au lycée, et qu'on me disait, bah désolé, j'étais en vacances, je te donne pas les cours parce que moi j'étais en tournoi, alors que ça faisait une semaine que ma maman envoyait des mails pour essayer d'avoir les cours, qu'à la rentrée on a une interro, bon bah dommage, bah tu feras bac pro, bah oui mais non, enfin, donc aux US c'est vraiment...
C'est vrai que c'est moins arrangeant pour l'instant en France, même si c'est en train d'évoluer, parce qu'il y a aussi maintenant de plus, on en a eu justement sur le podcast, de plus en plus de sportifs qui ont aussi cette envie d'avoir ce double projet, et notamment parce que il faut penser à la suite, c'est-à-dire que, par exemple, ta carrière de golfeuse professionnelle, elle va prendre une partie de ta vie, enfin un temps, mais à un moment, il va y avoir une autre page qui va se tourner derrière, et peut-être effectivement du coup en architecture ou dans autre chose. Et en tout cas, il faut y penser, parce qu'on sait aussi que les sportifs, même s'il n'y a pas forcément de moyenne d'âge d'arrêt, en tout cas dans le tien, mais sinon, la plupart, 35 ans, ils sont à la retraite, sportivement parlant. Et que 35 ans, on a encore beaucoup à faire derrière.
Justement, en fait, quand tu rentres en France après donc ton diplôme, tu voulais passer pro, c'était encore flou dans ta tête ou...
C'est alors 2022, 2023, il était pro. Hein.
Alors j'ai vraiment eu ce déclic vers janvier 2022 à peu près. D'accord. Où là, je me suis dit, il faut vraiment prendre une décision.
Oui, c'est maintenant.
Parce que c'est le dernier semestre, donc ça touche à sa fin. Donc soit je reste, je fais quelque chose ici, soit en fait il y avait tellement de possibilités. Et puis au final, je me suis dit, il faut vraiment que je me lance. Par contre, je suis très très proche de ma famille et de mes racines, c'est très important. Donc je me suis dit, je vais rentrer au début, je vais vraiment essayer de me ressourcer et essayer de commencer avec les personnes qui comptent le plus pour moi, pour me donner le plus de force possible. Et puis après, si besoin est, je partirai, parce que j'adore vraiment la France, c'est mon pays. Maintenant, je sais que je ne vivrai pas ici éternellement, j'ai besoin de bouger, de voir d'autres choses aussi.
Mais est-ce et les compétitions, justement, aussi t'emmènent à...
C'est vrai, mais c'est quand même différent, parce que du coup, je ne suis pas entourée des personnes que j'aime, il n'y a pas... Non. Voilà, puis c'est en tournoi, c'est le métier, donc c'est vraiment...
C'est assez strict quand même sur les compétitions en golf, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de temps pour peut-être profiter un petit peu sur place.
De l'endroit.
Non, il n'y a pas énormément de temps. Après, on peut s'aménager toujours une journée ou deux avant ou après pour visiter.
Mais c'est un rythme quand même assez soutenu, quoi.
Ouais. Alors justement, moi je veux te parler de la vie sur le tour. Est-ce que c'est facile d'y rentrer Est-ce que c'est une vie qui te plaît? Oui.
C'est une vie qui me plaît, oui, parce que j'adore voyager, j'adore voir de nouveaux horizons et de rencontrer de nouvelles personnes. Maintenant, mais je suis un peu hybride.
C'est une hybride.
Je suis un peu hybride.
C'est la raison qu'il y a pas mal de paradoxes chez toi, mais c'est ce qui est intéressant.
C'est trop bizarre. Je suis un peu chelou. En vrai. C'est pas grave.
On fera le titre du podcast.
Qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas.
Alors chelou. Ouais.
J'aime beaucoup voyager et être un peu solitaire, faire mon truc.
D'accord.
Mais j'ai quand même besoin d'avoir les gens que j'aime ou mes amis ou d'avoir en fait les deux. C'est comme le golf et les études, j'avais besoin d'avoir les deux.
Parce que j'avais lu que tu avais dit que finalement on avait quand même des amis sur le tour.
Oui.
Tu pensais un peu l'inverse avant d'y aller?
J'avais un peu peur de cette rivalité. Ouais. Pour moi, c'est on est copine à l'extérieur. Ouais. Sur le terrain, oui, on est forcément adversaire. Maintenant, je pars du principe que si je veux la balle, j'ai qu'à faire mieux qu'elle. Donc,
c'est déjà effectivement le but en général.
Donc je me suis dit, bon, je vais rester ouverte. Je vais faire mon truc, mais je vais rester ouverte. Et finalement, j'ai rencontré des filles géniales, des filles avec qui je communique par message de temps en temps. Et puis après, il y en a d'autres qui sont aussi bien plus copines. Et voilà.
Mais après, c'est un petit peu aussi l'esprit sportif, malgré tout, sur les compétitions. Parce que je suppose quand même que tu croises régulièrement les mêmes.
Oui, sur des compétitions, oui. Donc parce qu'on est sur le même circuit. Donc
exactement,
donc
forcément à chaque fois, si on se fait pas entre guillemets des bonnes relations ou en tout cas des amis,
c'est un peu pesant.
Je pense qu'on vit peut-être pas non plus la compétition de la même manière.
C'est vrai. Après, je pense que ça dépend des personnes. Il y a vraiment des gens qui ont besoin d'être seuls et dans leur truc.
Oui.
Et
on les voit, ils s'isolent.
Moi j'ai besoin un peu des deux. Ouais. Vraiment...
D'avoir tes moments à toi, mais également de partager ces moments
hybride,
avec moi.
C'est ça.
Oui, parce que quand on regarde sur les compétitions, malgré tout, enfin, tu y vas toute seule en général ou tu as peut-être un minimum de staff, mais c'est pas non plus évident d'être sur une compétition, de se retrouver seule et à un moment justement de pouvoir partager avec des personnes qui font la même chose que toi. Mm-hmm. Parce qu'ils comprennent encore plus
ils comprennent et puis ils sont dans la même situation. Exactement. Donc en fait on est là pour un peu s'aider en dehors du golf. C'est vrai qu'après au golf on fait chacun notre truc,
bien sûr,
mais
après ça joue sur le, comment on dit, ça joue sur le green.
Ouais,
comme tu le dis.
C'est ça exactement. Moi, mais après, on se fait quand même des amis. Moi, je peux citer Lucie, c'est une de mes super copines sur le tour. Et cette année, je vais partager beaucoup, beaucoup avec elle. Soit je partagerai avec elle, soit avec d'autres peut-être, et sinon toute seule. Mais principalement avec elle, ouais. Donc, ouais.
En tout cas, c'est pas incompatible.
Non.
Moi, j'ai une question pratique. Quand on débute donc, sur l'ETAS, donc le Let Access Series, est-ce qu'on rentre dans ses frais au début, financièrement?
Ça dépend.
Alors,
la question est vague.
Ah. J'allais dire, est-ce que toi, donc, du coup, tu es sponsorisé.
En termes de prize money, si on gagne un tournoi l'ETAS, est-ce qu'on rentre dans ses frais
On rentre dans ses frais du tournoi, oui.
Oui, d'accord.
Oui, largement.
D'accord.
Okay. Largement.
Ça
dépend. Ça dépend de vraiment si on décide d'aller dans un hôtel 5 étoiles. Là, on va peut-être pas rentrer dans les frais.
Voilà.
Mais en principe, moi, je fais beaucoup de Airbnb, location de voiture, tout ça.
Oui, ça peut couvrir quand même.
Ça couvre largement les frais.
D'accord.
Largement.
Le déplacement.
Si on gagne le tournoi, oui. Pour être vraiment honnête, sur le Letas, si on ne fait pas un top 3, top 4, on gagne pas énormément.
On peut être perdant, d'accord. Okay. Mais par contre, dès qu'on rentre sur le Let, du coup, ça devient vraiment une carrière qui...
Le Let, ça devient métier. Le Let, ça commence à être un peu plus... les prize money sont déjà beaucoup plus hauts et tout ça, donc
D'accord.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une grosse ferveur sur au niveau des prize money, sur le golf, malgré tout, sur les grosses compétitions, dans beaucoup de sports. Alors nous, il n'y a pas de tabou sur les prize money, en général, ils sont relativement visibles aussi pas mal de sports ou autres. Et après, effectivement, comme on le sait aussi, beaucoup de sportifs ont des sponsors, etc., qui permettent également de pouvoir vivre une saison de manière correcte et ne pas avoir le souci, en tout cas, du déplacement, de l'hébergement, etc.
Et tiens, du coup, un peu cette gestion...
T'as pas l'air d'accord avec eux ?
Non ?
Si, je suis super d'accord. Malheureusement, j'ai pas la chance d'être dans ce cas-là.
D'accord.
D'accord.
Donc,
alors après, effectivement, parce qu'il y a du sponsor sur différentes manières.
Oui, il y a du sponsor sur différentes manières.
Il y a de l'équipement, il y a
Exactement. Moi, j'ai la chance d'avoir Lacoste sur tout ce qui est les vêtements et tout ça, donc trop cool. C'est vraiment été les premiers. Ils lâchent rien, ils sont vraiment géniaux. Donc,
et c'est une partie, faut pas... Effectivement, c'est une partie qui est importante aussi pour tout sport. En tout cas, un équipementier et d'autres qui vont aller plus loin. Mais les équipementiers sont quand même très importants pour les sportifs.
C'est clair. Après, la partie financière, elle rentre quand même, très
et du coup,
évidemment, quand on veut faire une carrière pro, au bout d'un moment, il faut payer les factures.
Cet aspect un petit peu entrepreneur, du coup, c'est toi qui gères ça ou c'est tes parents ou...
Non, c'est moi qui gère tout.
Okay.
Alors, après, c'est pas une question tabou, hein,
du
tout.
Pas chez nous non plus.
Non.
Bon, super.
On a un statut de quoi en général?
Alors au début, moi j'ai un statut de micro-entrepreneur, micro-entreprise, voilà.
Elle a ses limites après la micro-entreprise.
Elle a ses limites à partir d'un certain, exactement, chiffre d'affaires.
Oui.
Pour l'instant, c'est pas du tout mon cas, donc sur le Letas, normalement, ça devrait aller. On passe en libéral, quoi. C'est vraiment en général, en libéral.
Et toi, t'aimes bien ça, cet aspect un peu gestionnaire ou
moi, j'ai l'impression que
pas trop.
Ah bon, non, d'accord, on croirait.
Mais alors. Voilà.
Il y a
un petit côté où j'aime...
Encore une fois, hybride.
Business girl, moi j'aurais dit quand même.
Il y a un petit côté où j'aime bien, dans le sens où je pourrais avoir un comptable, tout ça, beaucoup de personnes. Mais en fait, je préfère avoir la main dessus au début, de vraiment savoir dans quoi je m'embarque, ce qu'il faut faire et tout ça. Parce que le jour où bah, si un jour malheureusement je suis louée à moi-même, bah, au moins je sais ce que je dois faire. Je sais comment ça se passe. C'est, en fait, c'est vraiment là, c'est, on parle même pas de mon entreprise, on parle de moi en fait.
Oui.
Donc c'est ma gestion, c'est ma personne. Donc j'aime savoir ce qui se passe, où je mets l'argent, ce que je dois payer, ce qui se passe quoi.
Mais ce qui est bien aussi justement
ce
de
qui est très chiant aussi.
Oui, forcément.
Parce que du coup,
forcément,
du boulot.
Du coup, il y a pas que des bons côtés à ça, mais
c'est compliqué. Là, je suis encore en train de regarder vraiment des trucs que je sais pas trop quoi, enfin comment faire. Donc, ouais, il y a quand même pas mal de boulot, mais voilà, il faut. Je pense que, enfin, moi, j'aime bien savoir où je mets les pieds, ce que je dois faire.
Et du coup, quand on évolue sur l'ETAS, est-ce qu'on se donne un temps imparti pour réussir ou non, pas vraiment? Toi, t'en as un.
Moi, j'en ai un. Moi, je me suis donné 3 ans pour vraiment être dans le.
Un CDI alors.
Ouais. Moi, c'est vraiment. Il faut vraiment que ça bouge. Vraiment. Enfin, moi, je parle du principe que si je donne tout et que ça marche pas, bah, c'est que peut-être je suis peut-être pas faite pour ça. Qu'il y a peut-être
et t'auras
autre
pas
chose à voir et j'aurais pas de regrets.
Mais au moins, t'auras fait tout ce qui est
nécessaire.
Voilà,
exactement. Pour. Donc, c'est pour ça que là, cette année, je mets un grand coup. Je prends mon caddie. Enfin, du coup, personne qui m'aide pour les tournois, pour ma gestion des tournois et tout ça. Et du parcours, je l'emporte avec moi parce que c'est une aide précieuse, même en temps physique, pour le physique et tout ça, c'est lui qui porte le sac et tout ça. Donc, pour les premiers tournois, il viendra avec moi pour tous. Et puis après, on voit comment ça évolue. Mais voilà, je commence à un peu. Faut que ça bouge. Donc voilà. Après, ça viendra peut-être pas tout de suite non plus. Hein, faut pas que ça vienne comme ça. Hein, mais je suis un peu impatiente. Donc du coup,
Mais tu sais qu'il y a des échelons, entre guillemets, tu vois, il y a un process. Et c'est super intéressant de t'avoir, parce qu'on voit que tu as quand même la maîtrise de, en tout cas, tes ambitions, de ce que tu as envie de faire et de ta carrière professionnelle comme tu la vois toi. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu t'es mis, on voit,
c'est vraiment ton projet. Oui,
tu as envie, de, t'as envie de, en tout cas, bien connaître ton projet, que ce soit effectivement soit le côté entrepreneurial, soit le côté sportif aussi. Et moi, je trouve que c'est une grande qualité, très sincèrement, de voir que tu sais où tu vas te donner les moyens, bien évidemment, mais tu pars pas dans un inconnu infini. C'est-à-dire que tu t'es mis des... Il y a des échelons, il y a des barres.
En fait, alors du coup, l'année dernière, ça allait à peu près, mais j'étais encore un peu dans le vague. Et vraiment en janvier, où j'ai eu un moment de down, vraiment un énorme moment de doute, où ça allait pas du tout. Bien sûr, il y avait la blessure. J'ai eu aussi une perte dans ma famille, donc ça a rajouté quelque chose. Plus, du coup, le fait que je naviguais un peu sur les vagues. En fait, j'étais vraiment spectatrice un peu de mon projet. Et je me suis dit, mais ça va pas du tout. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je me suis dit vraiment, moi, je marche beaucoup au challenge, au tout ce qui est compétition. Je me suis dit, voilà, tu te mets des points fixes, on va dire, des challenges, des moments où tu veux arriver. Tu donnes tout et bah c'est là au final où je m'éclate le plus dans mes entraînements. Et au final, je vois quelque chose. Tu vois, quand tu vois vraiment le progrès et tout ça, tu te dis, bon, ok, ça sert à quelque chose en fait.
Donc ça veut dire que tu sais prendre du recul justement sur ce que tu fais. Mais est-ce que justement ces moments... moi, je dis souvent que les moments en général qu'on a un peu down pour n'importe quelle raison, elles sont aussi salvatrices pour après. C'est-à-dire que d'un seul coup, en fait, c'est qu'on a besoin d'avoir une réflexion sur ce qu'on est en train de faire. Mm-hmm. Et c'est aussi comme ça qu'on projette plus facilement.
Ouais, bah, j'ai vraiment eu ça. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Et puis, je me suis dit, même j'en parlais avec mes coachs, je me disais, mais en fait, je ne sais pas si je ne veux même pas arrêter le golf au final. Et ouais, c'est parti très, très loin. Et puis, j'ai réfléchi, j'ai fait un break. Et puis après, je me suis dit, allez, vas-y. Si tu fais quelque chose, tu le fais à fond. On m'a toujours dit, mes parents m'ont toujours dit, si tu fais quelque chose, tu le fais à fond, pas de regrets. Et puis, bah, du coup, je me suis dit, on va réfléchir sur ce que je dois mettre en place, comment je dois le faire. Et voilà, c'est pas encore parfait. Et je dis pas que ça va arriver tout de suite. Mais au moins, j'aurai pas de regrets. Et puis, si un jour, je dois arrêter, parce que je dois arrêter pour n'importe quelle raison, j'aurai pas de regrets. Et si toutefois, bah, ça m'aide aussi à continuer, et bah, tant mieux. Et voilà.
J'ai l'impression, en tout cas, que t'as un bon entourage autour de toi, en tout cas de grand soutien, ce qui est très important aussi dans une carrière sportive. Parce que comme on le sait, effectivement, quand on est l'athlète, on a plus le côté solitude, entre guillemets, par les compétitions ou ce côté-là. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que tu as une bonne base. En tout cas, j'ai l'impression que tu as beaucoup de clés positives, en tout cas, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça, pour justement, en tout cas... aller vers cette carrière professionnelle et te souhaiter, bien évidemment, en tout cas, d'atteindre tous tes objectifs.
Oui, en fait, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien de ma famille. Ça, c'est vraiment mon pilier
au
quotidien.
C'est très mignon.
J'ai eu un
C'est important. C'est important.
Cute. Et bah après, j'ai mon copain au quotidien qui m'aide énormément sur ça. Il est très dans le développement personnel et tout ça. Et lui, il a tout fait de A à Z dans sa vie, un peu tout seul, parce qu'il n'a pas eu cette chance d'être accompagné. Donc, c'est vrai que ça m'aide énormément. Et puis j'ai beaucoup, beaucoup de confiance en mon staff.
Et ça, j'ai
toujours voulu avoir des gens en qui j'avais confiance, et c'est vrai que voilà, mon préparateur mental, mon préparateur physique, mon coach, mon cadet, c'est des personnes en qui j'ai vraiment confiance, donc je sais que si je leur dis quelque chose, ils le diront, ils m'aideront pour moi et pas pour eux les faire grandir ou quoi, ou n'importe, je sais que c'est vraiment...
Ils serviront tes intérêts
voilà,
au moment
exactement.
Où ils sauront te dire les choses peut-être au moment où ils auront besoin voilà, de te dire pour progresser.
Exactement, pour exactement.
Et ça, donc, c'est... Effectivement, ça c'est.
Et puis ils savent m'écouter, donc c'est vraiment. Ouais,
il y a un petit peu des bossy qui vient d'arriver, mais ils savent m'écouter quand même.
Écoute-moi. Ouais,
puis je pense quand même que bosser avec toi, c'est sympa, c'est intéressant. Je pense que t'es assez dynamique.
Je sais pas, oui, ça va demander.
Je pense.
Bah, moi, ce que j'ai vu dans une interview, c'est qu'en tout cas, tu es très jovial, autant dans le positif que dans le négatif. Alors qu'en tout cas, tu exprimes énormément tes émotions.
Un humour un peu parfois sarcastique.
Oui, après, moi j'aime bien rigoler, j'adore. Ça, c'est vraiment ma clé. Enfin, moi, quand je me décris, c'est vraiment quelqu'un qui adore rigoler, les blagues. Tout ça, j'ai un mauvais caractère, je l'avoue, hein. mais c'est vrai que j'aime beaucoup rigoler, les blagues et tout ça, ça passe pas avec tout le monde, mais en tout cas...
Quand tu trouves ton public, en tout cas, c'est bien.
Voilà, ou même, des fois, moi, je suis un peu aussi gronchon, hein, on va pas se mentir, donc voilà, mais c'est vrai que...
On est français. Ouais,
j'adore rigoler, sourire, parce que, en fait, je pars du principe que si moi, je rigole, ne serait-ce qu'un sourire, ça peut transformer la journée de quelqu'un.
Ça, c'est sûr.
Mais
ça, c'est
du coup, vrai. Si on passe dans la rue, on croise une personne, on la connaît pas, on lui sourit, la personne va sourire en retour et au final, c'est que des ondes positives.
C'est vrai.
Et alors que si on est là à pleurer, au final, je pense que la personne,
on n'en voit pas.
Voilà, c'est pas... Donc, et puis, il y a aussi une question d'image. Je préfère qu'on me voit souriante.
De manière joviale. Voilà. Mais c'est vrai que tu as effectivement ces émotions, ce que j'ai compris, autant même dans la gagne que dans la défaite. C'est-à-dire que tu vas aussi t'exprimer dans la, dans la défaite. Mais en tout cas, tu vas extérioriser ce que tu as. Et ça peut être une très bonne chose.
C'est un peu moins bien sur un golf parce que quand on est sur le parcours et que la frustration ou l'énervement prend le dessus, c'est vraiment c'est pas top. Ça peut aller dans le négatif aussi. Donc c'est pour ça que je travaille dessus pour essayer de... Voilà, quand je fais un bon coup ou quoi, le yes et le point serré, il peut sortir.
Fist pump.
Voilà, ouais. Exactement, il peut sortir. Maintenant, m'énerver ou quoi, c'est une seconde, c'est punaise, fiché quoi. Alors vraiment, mais voilà, pas que ça prenne trop le dessus, parce qu'après, ça, on traîne ça. Et bon, sur un parcours de golf, si tu traînes ça plusieurs trous, t'as mis 3 trous avant de t'en remettre et t'as fait n'importe quoi. Alors que tu pourrais prendre 10 secondes si tu le travaillais, et le coup d'après, c'est fini quoi. T'y penses plus et t'es reparti quoi.
C'est vrai. Donc, mais est-ce que moi, c'est marrant, comme je vois les compétitions de golf, c'est très silencieux.
Ouais, c'est très silencieux.
Et en fait, j'ai regardé l'interview, je me suis dit, j'essaie d'imaginer d'un seul coup une petite nana qui
ne parle pas.
Non, justement, qui s'exprime à grande hauteur, qui lâche des gros yes sur le green, alors qu'on les voit tous, genre, j'ai réussi, ok, très bien, c'est facile. Mais genre très calme, très, très silencieux. Et je me suis dit, mais c'est...
Mais après, il y a quand même pas mal de joueurs qui s'expriment quand ils rentrent un peu, enfin, qui font un bon coup ou quoi. Après, oui, on est libre de s'exprimer.
Oui, il n'y a pas de
voilà.
De
après, faut être, bien sûr, faut mesurer.
Faut en éviter de crier avant que quelqu'un...
Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est quand on est dans l'émotion.
Mais après, ça veut dire aussi qu'on le vit pleinement.
Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr.
Chloé, merci beaucoup. Juste avant de terminer, donc on va rappeler tes échéances sportives.
Oui.
Donc début de saison, avril, c'est où précisément?
À Terre-Blanche, donc proche de Cannes. Ouais.
Et tu n'as rien avant en termes de tournoi, c'est le premier de la saison.
Et non, malheureusement.
Voilà.
Mais malgré tout, pour tous ceux qui sont effectivement vers Cannes,
voilà.
Si vous voulez aller
venir voir
du golf et venir voir
exactement.
Chloé
à Terre-Blanche.
Et du coup, l'Oleta, c'est combien de tournois dans la saison?
À peu près un petit peu plus de 15, il devrait y en avoir à peu près 16 ou 17.
D'accord.
Et ouais.
Est-ce qu'on fait tout en général ou est-ce qu'on choisit un peu son calendrier?
Plus on en fait, plus on a de chance de marquer des points.
Mais ça coûte cher, du coup.
Après, c'est comme tout, quand on a envie,
c'est
voilà.
J'ai
travaillé au McDo le mois dernier. Enfin, voyez quoi.
Ouais.
Non, mais c'est normal.
On a besoin.
On se donne les moyens pour réussir, comme on dit.
On se donne les moyens.
Donc là, t'es parti vraiment pour une grosse saison alors.
Bon, j'espère.
Ouais. Nous, on l'espère aussi.
C'est tout ce qu'on souhaite.
On va te suivre vraiment de très près maintenant.
Merci, c'est gentil. Sport à la loupe.
Exactement. De très
près. Elle a tout compris. Hein. Elle a tout
J'aurais compris. Dû te donner une loupe.
Elle a tout compris.
Aurais,
c'est pas grave.
De très près.
Mais on suit toujours effectivement les invités que l'on reçoit parce que justement on trouve ça très intéressant. Donc on va continuer à te suivre et potentiellement tu reviens quand tu veux sur avec nous pour nous raconter un petit peu.
On aime bien voir aussi si en fait ça a une influence sur leur parcours en fait notre podcast. S'ils progressent après en fait.
Bah si mais oui. Ah oui mais non mais
parfois oui, hein.
On peut pas te reprendre si tu régresses. Non, t'es obligé de progresser pour revenir.
Ok bon alors je vais ça va être un challenge de plus
voilà. Exactement. Non mais en tout cas pourquoi pas pour une fin de saison. En tout cas merci beaucoup
merci
de ta gentillesse. Merci de nous avoir accueillis en tout cas au domaine de la Boulie qui est effectivement très très beau. Et peut-être que en tout cas vous continuez à voir. Alors on va pas nous aller faire un swing sur
massacrer ce sport ouais.
Massacrer le sport. Mais en tout cas on va vous montrer Chloé jouer. En tout cas vous l'aurez vu pendant toute la vidéo. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Et on vous dit à tous à la semaine prochaine. Salut à tous.
Bientôt. Au revoir.